Madame Bibine, qui continuait d'assister aux entraînements de Gryffondor pour veiller sur Harry, fut tout aussi impressionnée que les autres par l'éclair de feu. Elle le prit en main avant que les joueurs ne décollent et les fit bénéficier de ses commentaires de professionnels.
« Regardez ce merveilleux équilibre !»«
Les Nimbus ont un défaut. Ils ont tendance à pencher un peu vers l'arrière. Au bout de quelques années, ils perdent de la vitesse. Vous voyez comme ils ont redessiné la poignée ?»
Elle est un peu plus fine que sur les brosures.
Elle me fait un peu penser aux anciennes flèches d'argent.
C'est tellement dommage qu'ils en aient arrêté la fabrication.
Je me souviens, j'ai appris à voler sur l'un d'eux. Et c'était vraiment un balai remarquable.
Elle continua ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que Dubois finisse par s'impatienter.
Madame Bibine, dit-il au bout d'un moment,
est-ce qu'Harry pourrait récupérer son balai ?
Il faudrait absolument qu'on commence l'entraînement.
Oh, mais bien sûr!
Allez-y, Potter,
dit Madame Bibine en rendant son balai à Harry. Elle alla s'asseoir dans les gradins en compagnie de Ron pendant que l'équipe de Gryffondor se rassemblait autour de son capitaine pour écouter ses dernières instructions.
Harry, dit-il,
je viens d'apprendre que c'est Cho Chang qui va jouer comme attrapeur chez les Serres d'Aigle. Elle est en quatrième année et c'est une très très bonne joueuse. Elle s'est blessée récemment et j'espérais qu'elle ne serait pas disponible.
Malheureusement,
Dubois fronça les sourcils, visiblement contrarié que Cho Chang y guérisse vite.
L'avantage, reprit-il, c'est qu'elle a un comète de 160, c'est-à-dire une plaisanterie par rapport à l'éclair de feu.
Bon, allons-y maintenant.
Pour la première fois, Harry put enfin enfourcher son balai et décoller. C'était encore mieux que tout ce qu'il avait pu imaginer. À la moindre caresse, l'éclair de feu virait avec une précision incomparable. C'était comme s'il avait obéi à ses pensées plutôt qu'à ses gestes. Harry traversa tout le terrain à une telle vitesse que le stade autour de lui se transforma en un mélange confus teinté de vert et de gris. Il prit ensuite un virage si serré qu'Alicia Spinney poussa un cri de terreur. Puis il descendit en piqué jusqu'à frôler l'herbe du bout des pieds avant de remonter en chandelle jusqu'à une hauteur de 15 mètres.
« Harry, je lâche le vif d'or !» cria Dubois.
Harry vira et fit la course avec un cognard qu'il n'eut aucun mal à dépasser. Il vit alors le vif d'or filer dans les airs et ne mit pas plus de 10 secondes à l'attraper au creux de sa main.
Et je vais vous présenter un livre qui s'appelle « L'alchimiste » écrit par Michael Scott. Chapitre 2. Tapis en haut de l'escalier, les yeux enflammés par le soufre et la menthe, George constata qu'il y avait foule dans la librairie, habituellement calme. Quatre hommes faisaient face à Nick Fleming, son patron. Trois d'entre eux étaient imposants et baraqués. Le quatrième, plus petit, il avait l'air sinistre. Josh pensa aussitôt à un hold-up. Nick se tenait au milieu de la pièce, d'allure banale, de taille et de poids moyen. Il ne possédait qu'un signe distinctif. Des yeux d'une pâleur telle qu'il paraissait incolore. Ses cheveux noirs étaient coupés très courts, et il arborait une barbe de plusieurs jours. Il portait son habituel jean noir, un t-shirt large, noir également, acheté en concert 25 ans plus tôt, et une paire de bottes de cow-boy usées. Il avait une montre bon marché au poignet gauche et une gourmette en argent au droit, ainsi que deux bracelets brésiliens défraîchis. Il toisait le petit homme gris en costume italien. Aucun des deux ne parlait, mais Josh voyait qu'il se passait quelque chose d'étrange entre eux. Les bras près du corps, les coudes rentrés, les paumes ouvertes, il ne bougeait pas. Le visiteur était près de la porte, ses trois acolytes autour de lui. Bizarrement, leurs doigts remuaient, se contractaient, dansaient, le pouce frottant l'index, l'auriculaire touchant le pouce, le majeur et l'annuaire tendus. Soudain, des volutes vertes apparurent dans les paumes de Fleming, dessinèrent des spirales avant de plonger vers le sol où elles se tordirent comme des serpents. Une fumée âcre et jaunâtre s'échappa des mains gantées de l'homme gris et s'écoula sur le plancher tel un liquide sale. Les relents épaississaient l'atmosphère. le chargé de menthe poivrée et de soufre. Dégoûté par l'odeur redoublée d'œufs pourris, Georges déglutit plusieurs fois pour ne pas vomir. Les volutes vertes et jaunes sinuaient entre les deux hommes, et quand elles se touchèrent, des étincelles jaillirent. Lorsque Fleming remua les doigts, un long ruban de fumée verte apparut dans sa paume. Il souffla dessus, si bien que le ruban s'éleva dans les airs, où il virevolota au niveau de leur tête. Les doigts boudinés de son adversaire pianotèrent. Un instant plus tard, une boule d'énergie jaune apparaissait au creux de sa main. Aussitôt, elle percuta le ruban vert, qui s'enroula autour d'elle avec un claquement sec. L'explosion invisible renversa les deux hommes, qui volèrent à travers la pièce avant de s'écraser sur des tables chargées de livres.
Bonjour, je m'appelle Lucie de la 6e 4 et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de 20 000 lieues sous les mers, dont l'auteur est Jules Verne. Notre route s'éclairait de plus en plus. La lueur blanchissante rayonnait au sommet d'une montagne haute de 800 pieds environ. Mais ce que j'apercevais n'était qu'une simple réverbération développée par le cristal des couches d'eau. Le foyer, source de cette inexplicable clarté, occupait le versant opposé de la montagne. Au milieu des dédales pierreux qui sillonnaient le fond de l'Atlantique, le capitaine Nemo s'avança sans hésitation. Il connaissait cette sombre route. Il l'avait souvent parcourue, sans doute, et ne pouvait s'y perdre. Je le suivais avec une confiance inébranlable. Il m'apparaissait comme un des génies de la mer. Et quand il marchait devant moi, j'admirais sa haute stature qui se découpait en noir sur le fond de l'horizon. Il était 1 h du matin. Nous étions arrivés aux premières rampes de la montagne. Mais pour les absorber, il fallut s'aventurer par les sentiers difficiles d'un vaste taillis. Oui, un taillis d'arbres morts, sans feuilles, sans sève, arbres minéralisés sous l'action des eaux, et que dominaient çà et là des pins gigantesques. C'était comme une houillère encore debout, tenant par ses racines au sol effondré et dont la ramure, à la manière des fines découpures de papier noir, se dessinait nettement sur le plafond des eaux. Que l'on se figure une forêt du Harz, accrochée au flanc d'une montagne, mais une forêt engloutie. Les sentiers étaient encombrés d'algues et de fucus, entre lesquels grouillait un monde de crustacés. J'allais, gravissant les rocs, enjambant les troncs étendus, brisant les lianes de mer qui se balançaient d'un arbre à l'autre, effarouchant les poissons qui volaient de branche en branche. Entraînée, je ne sentais plus la fatigue. Je suivais mon guide qui ne se fatiguait pas. Quel spectacle ! Comment le rendre ? Comment peindre l'aspect de ces bois et de ces rochers dans ce milieu liquide ? Leur dessous sombre et farouche, leur dessus coloré de tons rouges sous cette clarté que doublait la puissance réverbérante des eaux. Nos gravissions, des rocs qui s'éboulaient ensuite par pans énormes avec un sourd gondement d'avalanche. À droite, à gauche, se creusaient de ténébreuses galeries où se perdait le regard. Ici s'ouvraient de vastes clairières que la main de l'homme semblait avoir dégagées. Et je me demandais parfois si quelques habitants de ces régions sous-marines n'allaient pas tout à coup apparaître.